Radio Campus 88.3.
Alors c'est la fin?
Non, c'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais le même.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Un arpège est une suite de notes qui se déplient dans le temps tout en faisant partie du même accord. L'accord Do Mi Sol, par exemple, peut aussi bien être plaqué ou arpégé. Si bien qu'on peut parler d'arpègement comme d'une technique de composition, mais aussi une technique d'ornementation qui dépend des instruments. Et c'est là que des questions de style vont venir s'incruster dans des questions de facture. Une des grandes leçons contenues dans ce métaclassique arpégé étant qu'on n'arpège pas de la même manière au clavecin et à l'orgue. C'est dans le cadre du séminaire de recherche conçu par Anne de Fornel au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon que David Moroney et Benjamin Allard, tous les deux claveciniste et organiste, se sont prêtés à une présentation sur le seul thème de l'arpègement dans la musique de Bach. La séance commençait aussitôt par une question: et si Bach avait été plus organiste que claveciniste, est-ce que cela aurait changé sa manière d'arpéger? Ou est-ce que, pour commencer, le fait qu'il ait pratiqué les deux instruments explique tant de choses sur sa musique? David Moroney.
Je me souviens, après un concert, il y avait une personne qui est venue me voir pour dire: monsieur, j'ai une question. Jean-Sébastien Bach, est-ce qu'il était organiste ou claveciniste? Évidemment, la question c'est mais les deux. Et je me suis mis à penser, mais François Couperin, est-ce qu'il était claveciniste ou organiste? Oui, maintenant on retient surtout les 4 livres de clavecin, mais toute sa vie il a été organiste à Saint-Gervais et à la Chapelle Royale. Jean-Philippe Rameau, est-ce qu'il est organiste ou claveciniste? Il était organiste pendant de longues années avant d'arriver à Paris. Il était organiste à la cathédrale de Clermont pendant de longues années. Il jouait, il improvisait beaucoup à l'orgue. Et donc malheureusement, il ne nous a laissé aucune œuvre confirmée pour orgue, mais c'était un grand organiste. Et il a pris des cours avec Marchand et tout ça. Et tous les autres grands claviéristes, même Scarlatti, même Handel, ils maîtrisaient l'orgue parfaitement. Donc c'est ça notre tâche. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, j'oserais même dire qu'on ne peut pas prétendre à être claveciniste si on ne maîtrise pas, au moins jusqu'à un certain niveau, l'orgue. Parce que le langage, dans les deux cas, est souvent complémentaire. Et ça, c'est peut-être un bon moment pour débuter avec le Do majeur, où il y a des pièces où on a Bach qui prend la même idée musicale à l'orgue et au clavecin. Mais il traite cette idée différemment. Par exemple, si tu veux le tout début du...
Oui, je veux bien. Juste avant, j'aimerais vous faire entendre une différence toute bête d'un des musiciens qui a édité sa musique, donc qui est Frescobaldi, et que Bach a copié quand il a été éduqué musicalement chez son grand frère, son frère aîné, qui était Johann Christoph Bach. Donc on sait qu'un certain nombre de pièces de Frescobaldi se trouvaient chez Johann Christoph Bach, et Bach a pu donc avoir un certain contact avec cette musique. Et Frescobaldi est un des premiers qui parle au clavier de ce phénomène d'arpégé pour préluder. Donc au clavecin, évidemment, on a plein de manières de le faire, de commencer. Souvent, ce qui est le plus naturel, c'est de commencer. Et si on fait ça à l'orgue, évidemment, ça sonne pas. Ce qui est beaucoup plus naturel à l'orgue, c'est de commencer par le haut. Voilà, un exemple assez banal, mais d'une manière de préluder qui fait que, à l'orgue, la plupart du temps, avec l'ajout des harmoniques, c'est beaucoup plus logique de commencer par le haut. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. On peut passer à ce Do majeur?
Mais le Do majeur fait ça précisément, parce que ce petit prélude en Do majeur commence par la note la plus aiguë. Alors... D- Donc, vous avez entendu, après les trois mesures de magnifique arpègement, l'arrivée du thème qui était donc... Vous le reconnaissez sans doute, parce que Bach fait la même chose dans le premier prélude du deuxième cahier du clavier bien tempéré, mais là, après deux mesures et demie d'introduction, un peu différente, non pas du haut vers le bas, mais il commence cette fois-ci comme ça, et puis... Maintenant, le thème entre. Donc, c'est la même idée musicale, mais abordée de façon complètement différente pour faire sonner les deux instruments de façon différente. On voit bien que Bach, même quand il commence à enseigner le clavecin, si on prend la première pièce du petit livre de Wilhelm Friedemann Bach, pour ses petites mains, il avait 9 ans. Qu'est-ce que Bach lui fait? C'est à la fois un exercice de basse continue, si on veut, parce que c'est juste une série d'harmonies. Mais ça serait difficile pour un garçon de 9 ans de faire lors de sa première leçon. Donc Bach, il l'aide en lui donnant une seule note à la fois de jouer. Dire que c'est une grande pièce de Bach, mais là-dedans on a la façon d'apprendre à avoir une note à la basse, d'arpéger avec la base de l'harmonie sur le temps et de faire l'arpègement vers le haut. Il y a d'autres pièces où il y a un accord à la main droite et un arpègement à la main gauche. Donc on voit bien qu'il, comme toujours chez Bach, ce qui vous demande pour la main droite, il demande plus tard pour la main gauche, c'est toujours pareil. Et donc, on commence immédiatement, et évidemment, beaucoup plus sophistiqué. Sophistiqué pour deux raisons. D'abord, c'est à 5 voix cette fois-ci. Ce n'est plus les accords de 4 voix. Mais de 5 voix. Mais avec une harmonie parfaite, le passage des voix complètement correct. Et puis, la chose qui rend ce prélude si sublime, en quelque sorte, c'est cette espèce d'arpègement inattendu. Peut-être le résultat de ces 5 notes. Il y a 5 plus 3. Ce n'est pas 4 plus 4, c'est 5. Ça aurait pu être. On aurait pu faire comme ça. Mais le 5 plus 3, c'est une chose qui rend l'arpègement différent, original. Et je pense qu'on peut dire qu'en regardant, on va voir tout à l'heure, le clavier bien tempéré, juste le clavier bien tempéré, il y a à peu près 35, 36 façons de faire des arpègements qui sont intégrés dans les préludes et quelquefois dans les fugues aussi. Mais jamais deux fois la même chose. Jamais deux fois les mêmes arpègements. Et donc, c'est une invitation qui vient directement de Jean-Sébastien Bach, d'avoir beaucoup d'imagination dans nos arpèges.
Ce qui me semble très intéressant pour compléter ce que dit David, c'est qu'il s'agit pratiquement dans tous les cas de préludes.
C'est-à-dire que le terme soit italien toccata, donc toucher le clavier, ou le terme de prélude est présent dans ces pièces de style arpeggiando, exigé, soit écrite, soit... je pense que vous connaissez tous cette version du cahier de Wilhelm Friedman où la partition est écrite la première mesure avec l'arpeggiando et ensuite uniquement en harmonie. Il y a énormément d'exemples dans la musique de Bach, la musique de violoncelle. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'installer à la fois un caractère, un son, une tonalité, comme quelque chose qui était vraiment improvisé. Et ces pièces, à mon sens, sont vraiment des pièces libres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jouer de façon totalement déstructurée ou de ne pas les jouer en mesure, mais il faut les improviser. Et à l'époque, et en particulier chez Bach et dans le monde de Bach, le clavicorde est l'instrument par excellence, l'instrument à clavier, qui permet d'apprendre à façonner un son avec le clavier. Pour replacer un tout petit peu les choses, bon, vous savez probablement tous ce que c'est qu'un clavecin, ce que c'est qu'un orgue, ce que c'est qu'un clavicorde, mais l'énorme différence entre à la fois l'orgue et le clavecin d'un côté et le clavicorde d'un autre, c'est que le clavicorde est le seul instrument qui permet à la personne qui en joue de façonner un son à la manière d'un chanteur ou d'un instrumentiste à archet qui va être en contact direct avec la corde, hein, qui va permettre le vibrato, qui va permettre... Et faites l'expérience avec des jeunes commençants, comme on les appelle à l'époque ou encore de nos jours, de leur faire commencer à faire appuyer sur des touches de piano pour créer un son avec ce marteau qui est au piano assez lourd, un orgue où, le son se fait, c'est très beau. Au clavecin, où c'est une sorte de machine, où le son peut être très beau, mais ne tient pas et ne peut qu'en lui-même produire seulement après son émission un décrescendo, le clavicorde permet ce cantabile, justement, comme les instruments à cordes et comme la voix. Et c'est aussi ça qui me paraît important dans cette pratique de l'apprentissage à la fois du langage par l'intermédiaire du système harmonique que nous connaissons, en commençant évidemment par la tonique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'exploration de l'art de préluder. Alors on le trouve chez certains Français qui écrivent des... Le flûtiste Hautetert, merci, qui écrit donc son art de préluder. Mais chez Bach, on a l'impression que dans cette culture, grâce justement au clavicorde, au monde, je dirais, qui est lié à la house music, c'est-à-dire musique pratiquée à la maison, en famille, pas forcément réservée à un monde qui aurait les moyens de se permettre d'apprendre. Ce monde, justement, hérité de la réforme, permet d'abord à tout le monde d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, de savoir ce qu'on dit. Et donc, découle de tout ça, justement, une certaine, je dirais, culture, mais je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, plutôt une pratique de certaines choses liées à la fois, bien sûr, parce qu'elle est omniprésente, mais liée notamment à la pratique du choral à l'Église, qui change depuis la Réforme le monde complètement, puisque les fidèles chantent et le choral est omniprésent. Et donc cette harmonie et ce clavicorde qui se trouve pratiquement dans toutes les maisons quand il faut acheter un instrument à clavier, eh bien, c'est un petit clavicorde, on ne va pas chercher midi à 14h. Les facteurs d'orgue construisent aussi des clavicordes avec des pédaliers pour permettre de pratiquer le pédalier. D'ailleurs, on peut faire aussi l'expérience de jouer un prélude de violoncelle
au pédalier, ça marche. Bon, etc. C'est vraiment une façon de développer une approche de la musique et de l'expression musicale à l'aide d'un langage. Il y a une chose toute bête que je dis souvent aux étudiants et aussi parfois aux gens qui écoutent, au public par exemple, c'est qu'ils ne viendraient jamais à l'idée de la part de parents, par exemple, d'apprendre à un enfant à lire ou à écrire avant de savoir parler. C'est la même chose. Et je pense que cette façon de préluder et de prendre contact avec un langage harmonique tel qu'il soit, hérité vraiment de l'improvisation, est une base extrêmement importante pour ça, et notamment pour les arpèges et le développement d'une culture. Parce qu'une fois qu'on a cette façon de parler, qu'on la maîtrise d'une certaine manière, à un certain âge, pour un enfant qui parle à peu près, disons, qui commence à parler, eh bien ensuite, la lecture est beaucoup plus facile. Hein, c'est la même chose dans les pratiques des langues, c'est vieux comme le monde, mais si on ne parle pas une langue, eh bien évidemment, on la connaît moins bien.
Je pense que c'est peut-être aussi le moment de reprendre une chose que Ben vient de dire, parce qu'il a évoqué le clavicorde et la musique à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de musique, de pratique musicale trop banale, trop enfantine pour nous. Il faut toujours travailler même la façon de faire. Je me demande combien de clavecinistes dans la pièce, y compris nous, est-ce que nous avons jamais osé jouer cette pièce en public pour un concert ? Non. On se dit, non, c'est pas une pièce. C'est juste un petit exercice pour un gamin de 9 ans. C'est pas une pièce de concert. Les gens vont rire si on joue ça. Mais si on aborde ça sous l'idée de l'imagination qui peut commencer avec une idée. Bach disait qu'il ne pouvait pas improviser si on ne lui donnait pas une petite idée musicale. C'est pour ça qu'il aimait que ça soit une chanson ou un thème de chorale ou juste une phrase ou un sujet de fugue. Mais une idée. Et avec ça, il pouvait partir. Mais s'il n'avait pas ça, il avait du mal à démarrer. Eh bien voilà, ça c'est une idée. Si on marie l'arpègement venu d'une autre pièce avec cette petite pièce, on voit bien que l'idée musicale derrière la petite pièce pour Wilhelm Friedemann n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvaise pour la présentation musicale, c'est juste la simplicité de cet arpègement. Par exemple, si j'ajoute une cinquième voix, et au lieu de faire... Je transforme ça vraiment à cinq voix... J'ajoute un ténor, essentiellement. Et j'emprunte un arpègement. Bon, j'ai emprunté une cadence aussi, les quatre dernières mesures. Mais tout d'un coup, ça devient une vraie pièce de musique. Et pourtant, c'est le petit prélude de Wilhelm Friedemann. Je vous assure, si vous faites ça comme bis à la fin d'un concert, la première chose que les gens disent, c'était quoi le bis? C'était quoi le bis, cette pièce?
Pour compléter par rapport à la notation et au fait que chez Bach, il y a souvent ces accords écrits, à ma connaissance, on trouve assez rarement l'expression arpeggiando, on la trouve quelquefois, on trouve l'expression parfois arpeggiando e recitativo, mais il y a un mot, enfin plutôt une expression musicale qui nous éclaire beaucoup, qu'on trouve beaucoup à l'époque, qui est con discrezione, c'est-à-dire avec discrétion, c'est-à-dire comme on veut. Et on la trouve, la première fois que Bach a pu la voir, c'est dans l'Andreas Barbour, qui est un recueil qui a été compilé par son frère aîné, donc qui l'a éduqué, Johann Christoph, qui habitait Ohrdruf et qui a reçu Bach à l'âge de 10 ans quand il s'est retrouvé orphelin. Cet Andreas Barbour devrait s'appeler Johann Christoph Barbour, mais il s'appelle Andreas Barbour parce que le fils de Johann Christoph, Andreas, en a hérité et il a écrit son nom dessus. Donc c'est donc le neveu de Bach, d'une certaine manière. Enfin non, c'est le neveu de Bach. Et dans ce manuscrit, qui est très intéressant, il y a plusieurs mains. Il y a des pièces de Bach lui-même, il y a des pièces de Buxtehude, il y a des pièces de Reinken, il y a des subsistances, de pièces écrites en tablature allemande, notamment cette fantaisie. Etc. Rien à voir avec l'arpeggiando, mais c'est vraiment une très très belle pièce du jeune Bach. Et il y a une très très belle pièce qui n'a pas été publiée du vivant de Johann Caspar Ferdinand Fischer, qui est un prélude dans le style Stylus Fantasticus, comme ça, sol majeur. Des passages, fugato, stylus fantasticus, adagio, etc. Et il y a un passage avec une indication très intéressante, avec des accords. Arpeggiando per tutto, con discrezione e senza riposar. C'est-à-dire, vous avez compris, arpeggiare tout le temps, comme, avec discrétion et sans s'arrêter. Et ça, c'est une source qui veut dire qu'il y a toujours, évidemment, une forme de liberté. Et à mon sens, on trouve, enfin, à ma connaissance plutôt, on ne trouve cette expression con discrezione chez Bach qu'à un endroit, dans la toccata en ré majeur, quand ça fait. Voilà, dans ce passage-là. Mais à part ça, peut-être je peux me tromper, mais on ne trouve pas beaucoup d'indications en dehors de adagio, allegro, les indications vraiment de tempo. À noter que, vous le savez probablement, mais à partir du moment où on utilise adagio, qui veut dire à l'aise, il y a aussi une période charnière au cours de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, où ces moments adagio, qui veulent dire à l'italienne comme on veut, c'est-à-dire comme dans les toccata italiennes, le terme adagio devient un terme de tempo, c'est-à-dire très lent, le plus lent, d'après Telemann notamment. Et cet arpeggiando, malheureusement, je n'ai pas pu l'imprimer pour vous, mais je peux vous en donner une sorte de version. Thank you.
de faire des allers-retours sur les accords qui sont écrits en blanche avec certaines notes de passage. Parfois, il y a des dissonances qui sont résolues comme ça. Mais on a aussi plusieurs exemples dans la musique de Buxtehude et de Reinken aussi, de notes de passage, de broderie, et c'est intéressant de varier. Et c'est justement ce côté con discrezione qui permet une variété. Si on accélère, évidemment, ça crée un crescendo. Si on ralentit, ça crée des crescendo. Infini. Les possibilités de, on peut dire, interprétation, de réalisation sont absolument infinies. C'est ce qui est très, très excitant et intéressant. On ne peut pas mettre de barrière à un compositeur qui nous fait sentir que c'est écrit con discrezione. Alors évidemment, il ne faut pas jouer une harmonie étrangère, mais beaucoup de notes de passage sont éventuellement, voire même la plupart du temps, étrangères à l'harmonie. Mais elles font partie du discours musical que le musicien va pouvoir justement donner. Et en lien avec Frescobaldi toujours, et ce côté de la seconda pratica qui a fasciné Bach par rapport à l'ancien style, que Bach devait évidemment connaître les motets qu'on chantait pour certains de temps en temps à l'église. Il n'y avait pas que le chant du choral, il y avait les cantates qui étaient composées. Mais parfois, pour certaines fêtes, il y avait des motets en ancien style qui n'étaient pas forcément en Allemagne à cette époque-là. Ils pouvaient être influencés par la Seconda Pratica qui a été très, très critiquée, mais pas seulement. Il pouvait y avoir du très beau style, comme le vieux style du Praetorius. Si je raconte ça, c'est pour en venir à une pièce par rapport à l'adaptation à l'orgue et au clavecin d'une pièce, ou au clavicorde d'ailleurs, ou au fait qu'à l'orgue, les sons peuvent tenir, et au clavecin, pas. Donc, je vais vous jouer d'abord à l'orgue, un passage d'un adagio, d'une toccata que vous connaissez probablement. C'est la fin d'un admirable adagio. Comment ça ? et à la fin, il y a une sorte de récitatif. Arrêt, et puis ce merveilleux passage de dissonance qui est vraiment une chose magnifique et qui, à mon avis, directement hérité de des dissonances et des doulettes et des toccates pour l'élévation ou des toccates des livres de Frescobaldi. Ces harmonies-là sont tout à fait transposables au clavecin. Si on applique les choses de l'expression de Fischer, par exemple. Alors on a...
Et ça m'a fait penser que parfois, Bach nous indique exactement comment faire les arpèges, mais pas toujours. Par exemple, dans la fantaisie chromatique, il y a plein d'endroits, mais les passages où il y a des grands accords qui ne sont pas en arpèges, mais il marque la première fois arpeggio, mais le premier accord, il l'écrit en toute note. Donc. Et ensuite... Donc c'est ça la série d'accords. Et à partir du premier, c'est marqué arpeggiando. Donc on se dit, bon, on continue sur le modèle. Mais Bach nous interrompt sur la dominante. Parce que c'est ça le point culminant, évidemment, l'accord en haut. Mais est-ce que ça veut dire qu'on fait exactement le même arpeggiement? Non, parce qu'il n'y a pas le même nombre de notes. Donc ça ne marche pas. Donc évidemment, il faut que ça soit un peu plus souple. Et puis après tout le passage qui nous descend vers le grave, on a... des accords magnifiques. Mais... est-ce qu'il faut jouer juste ces accords? Comment on fait le passage de... à ça? C'est pas naturel. Parce que la main gauche est là et doit être là. Donc, est-ce qu'on fait le même arpègement dans les deux mains? Pourquoi faut-il que ça soit une main après l'autre? Est-ce qu'on peut faire un arpèggement là et un autre arpèggement à la main droite, par exemple? Et puisqu'il l'a, il a une mélodie, ce qu'il n'y avait pas avant. Est-ce qu'on ferait pas plutôt de faire sortir la mélodie? En mettant la mélodie sur le temps, c'est un choix, c'est une possibilité. Et ensuite, il interrompt cette série d'accords. Magnifique. Sur ça, avec une interruption qui est une sorte d'arrangement où il nous dit de prendre un peu plus de temps, mais on est là toujours au même moment. Et il nous a fait ralentir parce que c'est la modulation énharmonique. On n'attendait pas ça du tout. Et donc, tout l'arpègement continu, mais c'est à nous, on a le libre choix de la façon de le faire, de faire sortir ce qui est le plus important, l'harmonie, la modulation énharmonique, la mélodie au-dessus, la basse, si ça c'est le plus important. Et c'est là où on voit qu'on peut demander des conseils à Bach lui-même, parce qu'il nous a donné tant d'exemples. Et j'aimerais vous montrer par exemple sur la feuille que je vous ai donnée. Le numéro 1, vous reconnaissez tous le deuxième prélude du clavier bien tempéré, avec cette série d'accords. Donc c'est une harmonie à 6 voix. Donc 3 voix dans chaque main, et Bach met ça en arpègement de façon très simple. Il change légèrement pour la prochaine. Mais c'est le même principe d'avoir le dessus et la basse sur le temps, avec les parties intérieures qui font quelque chose. En revanche, si on prend le prélude numéro 3, le do dièse majeur, l'arpègement est tout à fait autre, avec un arpègement différent à la main gauche, en alternant les notes, tandis que les répétitions... C'est une autre approche, mais ça nous montre que les deux mains peuvent faire des choses différentes. Dans le ré mineur, on a juste un arpègement à la main droite. Très simple, c'est très joli, ça serait trop compliqué si on mettait un arpègement aussi à la main gauche, peut-être. En revanche, pour le fa majeur, il nous donne les accords et là il nous donne un arpègement compliqué à la main droite avec des notes de passage qui n'appartiennent pas à l'accord. Vous connaissez tous évidemment les ornements venus de chez d'Anglebert et les Français, ou les accords figurés. Et puis à la main gauche, au lieu de faire la même chose, une autre sorte d'arpègement. Ça, c'est juste 4 exemples d'arpègement, ou presque plus, parce qu'il y a la différence entre la main gauche et la main droite. Si, par exemple, on regarde la pièce que vous jouez, le 944, qui commence par un grand accord. Aucune indication comment il faut arpéger, sauf le mot arpègement. Ensuite, une série d'accords. Elles sont fascinantes. Et ça, c'est assez difficile si on a des petites mains. Intéressant cet accord avec les deux sol dièse, mais il est là au milieu. Après ce prélude, il ne faut pas oublier, il y a une longue fugue qui a le sujet, je pense, le plus long dans toute l'œuvre de Bach. Il y a 76 notes pour le sujet, avant que la deuxième voix entre. Ça continue pour 8 mesures, avant que la deuxième voix n'entre. Donc, ce petit prélude a l'air ridicule devant la grande fugue, qui est magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être à la hauteur de ce challenge? Quand je vois un premier accord comme ça, ça me fait penser tout de suite au premier accord de la première toccata de Froberger. C'est ça. Et puis... Les clavecinistes auront reconnu aussi le début d'une pièce de Louis Couperin qui s'appelle « Prélude à l'imitation » de M. Froberger. Et c'est exactement la même citation parce qu'il cite la pièce de Froberger. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ce premier accord? Il ne fait pas des arpégements comme ça. Il est beaucoup plus inventif. Et là, je l'ai joué littéralement strict en rythme. Évidemment, on peut être un peu libre si on veut, mais pas forcément nécessaire. Hein. Ça va très bien aussi. Et puis... Donc là, Louis Couperin nous donne un exemple. On suppose que c'est basé sur ce qu'il a pu entendre quand Froberger est venu à Paris. Il a rencontré Chambonniard. Sans doute, il a rencontré Louis Couperin à ce moment-là. Mais donc, c'est une invitation, ce premier accord. Parce que la vraie pièce de la fantaisie commence après, avec les dissonances, les accords. Avec cette descente... On arrive à nouveau sur le La mineur, mais avec le Do à la basse. Et ensuite, visiblement, une deuxième partie. Donc, c'est en deux phrases, avec un premier accord, qui nous invite à faire quelque chose. Mais est-ce que, dans un premier temps, on pourrait, par exemple, imaginer... d'emprunter, un peu comme j'ai fait pour le petit prélude tout à l'heure, des arpégements de chez Bach. Parce qu'il nous montre le chemin. Prenons par exemple le... C'est un bon modèle, pourquoi pas. On pourrait faire à la main droite, pour ce grand accord, on pourrait faire... Et à la main gauche. Et on emprunte une idée pour un arpégement de Bach venu du Do mineur. Mais si on prenait comme modèle, qu'est-ce que ça pourrait nous donner? On pourrait avoir... Et à la main gauche... C'est une autre idée. Ou si on prend comme notre modèle, on pourrait imaginer comme façon d'arpéger deux arpégements différents dans les deux mains. Et finalement, l'arpègement de le Fa majeur, on adapte ça. Pardon, je commence. Donc on peut s'inspirer de ces... Ça, c'est juste 4 exemples. Et comme je vous ai dit, il y en a une bonne trentaine dans le clavier bien tempéré, pour vous inspirer comme façon de jouer. Mais, évidemment, le modèle de la fantaisie chromatique, où... reste aussi une possibilité, parce que c'est une autre modèle. Donc, ça, c'est juste pour vous ouvrir un peu l'esprit, être plus libre, quand vous voyez ce challenge, ce défi arpeggiando, parce qu'il y a énormément de possibilités, mais je pense qu'il n'y a jamais eu un compositeur qui était aussi inventif dans l'invention d'arpèges notés.
Nous n'avons pas encore parlé du luth, mais enfin, disons l'instrument qui en fait est en quelque sorte le... Bon, en fait, le clavecin est un luth à clavier, mais ce style qu'on appelle le style luthé est présent, énormément présent dans la musique de Bach. Il est parfois difficile de savoir jusqu'à quel moment on peut analyser s'il y a 2, 3, 4, 5 voix. C'est assez délicat. Par exemple... mais ça, c'est une pièce qui est vraiment un prélude, qui s'appelle prélude, qu'on peut jouer au clavecin, qu'on peut jouer au luth, dans la musique de luth, qui est aussi transcrite ou adaptée de la musique de violoncelle et de violon. On peut faire énormément de ponts, justement, partir du luth, passer par le clavier, partir du violon, du violoncelle, aller au clavier, aller à l'orgue, comme dans certains cas, par exemple, il y a cette fugue pour violon. J'exagère parce que les violonistes font ça. Mais il y a des... Alors, une entrée qui n'existe pas, et ça, c'est vraiment un travail de transcription qui est passionnant. Mais il y a un passage qui est arpeggiando au violon, qui est comme ça. Etc. Et à l'orgue, Bach le transcrit comme ça. J'ai l'impression que l'ajout de voix au ténor donne un effet de vie dans la polyphonie qui ne nécessite pas forcément de faire des arpèges. Mais c'est à l'orgue, et c'est probablement pour orgue, mais c'est tout à fait jouable au clavecin, ou clavecin à pédale, à clavicorde à pédale, tout ce qu'on veut. Et donc il est évident qu'au clavecin, c'est un peu plat si on joue ça comme ça. On a besoin des appels. D'ailleurs, oui, là, je m'en mets les pinceaux, mais on peut le faire dans les deux sens, d'ailleurs. Etc. Donc tout ça est très perméable. Et pour en venir, ça c'est une fugue, mais dans beaucoup de musique de bar, de danse, notamment les allemandes, qui par certains aspects ressemblent beaucoup au prélude, et, parce qu'il y a une attention toute particulière à porter au son, à l'harmonie, eh bien il est parfois assez difficile à dire si la pièce est à 2, 3 voix, si... certaines liaisons permettent de faire apparaître une voix, par exemple.
charme. On peut considérer que cette pièce est à trois voix par les tenues qu'elle sous-entend, mais dans certains passages de cette allemande, par exemple, il y a certaines notes qu'on peut tenir à discrétion qui vont faire apparaître une autre voix, une quatrième, ou une troisième quand il n'y a que deux voix. Et ça, tout l'art de ce qu'on peut appeler le surlier au clavecin, de tenir une note, d'en faire vivre une autre, de lui donner une importance par rapport à la précédente qui est moins importante, ou de faire le contraire parfois au clavecin, alors que c'est pareil. Les moyens d'expression sont très, je n'ose pas dire limités, mais il faut beaucoup d'imagination pour justement pouvoir faire vivre une voix à un moment donné. Il y a d'autres avantages qui sont, par exemple, un vent vivant peut donner justement avec des basses et une sorte d'énergie. En tout cas, on n'avait pas parlé du luth et ça me semble important.
Nous avons évoqué avec Ben juste au début du cours, il y a une pièce d'orgue, parce que pendant nos discussions, Ben avait dit oui à l'orgue, c'est très bien quand les arpèges commencent par le haut, comme on a vu avec le prélude en Do majeur qui nous a joué au tout début, et au clavecin, c'est souvent plus naturel de commencer par la basse. Mais dans la pièce d'orgue de BW 572, oui, on a un arpègement qui est divisé entre les mains, mais effectivement, c'est exactement ce qu'il disait, un arpègement du haut en bas. Et puis ça change et ça commence par le bas. Mais quand on arrive à la fin de la pièce, le fameux moment après la grande partie centrale à cinq voix, où on arrive sur un grand accord de... Plus que ça, oui. Et ça s'arrête. Et ensuite, on a des accords qui sont écrits en toutes notes. Mais ce n'est autre chose que ça. Et personnellement, selon l'acoustique, je tiens les notes de l'accord. Mais si on tient toutes les notes de l'accord, le problème, c'est qu'on a trop de son dans l'église. Et ça devient brouillé comme son. Tandis que Bach, il écrit des silences dans la partition, donc il faut laisser le son s'aérer un petit peu. Et ça nous amène à une chose importante, je pense, concernant les arpèges au clavecin. Peut-être que tu auras une réaction à faire à propos de l'orgue, mais quand on fait des arpèges, et on le fait tout le temps en jouant au clavecin, c'est assez difficile. Fait pas, mais c'est pas. Ce léger décalage qui peut se faire. Et quand on a des accords, c'est la chose la plus naturelle de ne pas toujours faire ça. Mais c'est rare que les gens fassent assez attention à la façon de lâcher l'accord. On fait beaucoup d'efforts sur l'arpèglement et ensuite on lâche tout comme si c'est la guillotine qui tombe. Et tous les sautereaux descendent, tous les étouffoirs descendent sur les cordes au même moment, et on entend. J'exagère, évidemment. Mais il est très utile. Un jour, je me souviens, quand j'étais étudiant, et je prenais des cours avec Gustav Leonhardt, et je lui posais cette question. J'ai dit, j'ai un problème avec les arpèges, parce que c'est toujours trop sec à la fin de l'accord. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on ne peut pas ensuite relâcher du haut en bas. On n'a pas le temps. On ne peut pas lâcher du bas en haut. Ça ne marche pas non plus. Dans le jeu, il n'y a pas le temps. Et il m'a dit qu'il fallait, si on a le temps, essayer de laisser de l'air dans l'instrument en enlevant des pouces vers les petits doigts. Comme ça, on laisse la basse et la mélodie. Donc, évidemment, ça c'est très lent, donc vous entendez ce que je fais. Vous apprendrez ça très facilement en travaillant chez vous un week-end, et ça transformera le jeu. Parce que, surtout de le faire avant un temps fort. Parce qu'on parle beaucoup de l'arpègement, de la façon de placer l'arpègement, mais on ne parle pas assez de la façon de lâcher l'arpègement. Et au clavecin, c'est l'une des rares choses qui peut vraiment donner du relief au son. Mais ça demande une vraie maîtrise. Mais c'est une maîtrise comme ça, comme si on enlève la peau d'une orange quelque part. C'est juste de pousser des pouces vers les petits doigts. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Évidemment, si on fait de... on ne le fait pas. Mais la règle générale, si on place un accord plaqué, on peut la lâcher plaquée. Si on arpège l'accord, c'est laid quand on enlève plaqué. Donc cet équilibre entre l'instrument qui fait sonner la musique et la musique qui fait sonner l'instrument se trouve parfaitement sur la table, devant nous, quand on aborde ces arpèges. Parce qu'on peut se servir de ces arpèges selon des façons qui conviennent.